Les Beaux-Parleurs, de 11h à midi sur la première. Les Beaux-Parleurs, Michel Zendali.
Bonjour Julien Sansonnens.
Oui, bonjour.
Ancien président du POP dans le canton de Vaud, aujourd'hui député au Grand Conseil avec, après une multitude de rebondissements. C'est d'abord autre chose qui nous intéresse, et pour la raison pour laquelle vous êtes là aussi, c'est que vous publiez un roman, Les Ordres de Grandeur, un polar, dans le milieu politico-médiatique. Alors le pitch, comme on dit, c'est un présentateur du téléjournal qui s'appelle Roche.
Rock. Non, Rock.
On pourrait l'appeler Roche aussi.
Bon, on pourrait.
Du téléjournal d'une chaîne privée qui s'appelle donc Roche ou Rock, qui va se lancer en politique. Mal lui en prend, il va se brûler les ailes dans cette opération. Alors, on ne fait pas le détail de ce qui lui arrive, mais enfin, disons que ça va évoluer du côté des mœurs un peu, disons, étranges, bizarres, et qui sont surtout réprimées par le code pénal.
Est-ce que c'est une référence à l'acteur américain The Rock? Est-ce que c'est une référence au DJ français Jean Rock?
Non.
Alors je sais pas de qui il parle. Je sais pas.
L'ancien conseiller d'État valaisan Claude Rock peut-être. Puisque vous êtes en Valais maintenant.
Peut-être. Je pense qu'on trouvera pas. Je pense que c'est trop bien caché.
Alors qu'est-ce qui vous intéresse dans ce milieu, le milieu politico-médiatique? Politique, je comprends, mais politique et médiatique.
C'est le plaisir de raconter des histoires. C'est peut-être finalement pas très différent de l'activité politique. Hein. C'est le plaisir de raconter des histoires, de mettre
la fiction,
la science-fiction des fois. Effectivement, non. C'est effectivement un plaisir différent. Et je crois qu'il y a pas de militantisme à chercher dans ce livre. Je me suis bien gardé de faire un livre militant, un roman militant. Je crois que c'est très ennuyeux. Enfin, les romans, disons, où on essaye de faire passer un message, moi ça me barbe. Et je crois que ça barbe un petit peu les lecteurs. Donc il y a pas
de héros positif dans votre livre au fond. De façon
pour non, je crois pas. Il y a pas vraiment de justice. Disons, les choses se passent assez mal un petit peu pour tout le monde.
Mais c'est un milieu que vous aimez pas beaucoup. Vous le brocardez. En tout cas, vous faites de la satire sur ce milieu.
Oui, c'est un milieu dont je crois qu'on a le droit de se moquer. Enfin, c'est se moquer gentiment avec quelques références effectivement à l'actualité. Certaines personnes ont cru voir des personnages réels dans cette fiction totale. Mais je crois qu'il y a
pas. Rock n'est pas Rochebain. Par exemple, pour prendre un exemple, parce qu'il y en a plein d'autres.
Écoutez, on m'a dit que c'était DSK, on m'a dit que c'était un parlementaire dont je citerai pas le nom, on m'a dit que c'était Rochebain, on m'a dit que c'était d'autres personnes.
Ouais, puis Rochebain n'est pas marié avec Isabelle Falconi, je veux dire.
Non, d'accord.
Et puis vous avez un conseiller en politique qui s'appelle Marc Camille. Il n'a aucun rapport avec Marc Comina.
Non, c'est une coïncidence totale.
Ah bon, j'ai eu peur, oui.
Mais Gabriel Baber.
Oui, le roman permet d'assassiner Freisinger. Par exemple, c'est ce qu'avait fait Bastien Fournier dans l'assassinat de Rudolf Schumacher. Et ce Rudolf Schumacher, il ressuscite dans votre roman. Oui. Il ressuscite et c'est un personnage sulfureux, provocateur, grande gueule, habile tacticien. Il est pour la peine de mort. Il traite les étrangers de macaques, mais il a bien sûr rien à voir avec le Rudolf Schumacher de Bastien Fournier.
Non, je crois pas. C'est encore un hasard, effectivement. Mais après, c'est vrai que ces emprunts de personnages qui sont construits, moi, je trouve ça finalement assez drôle. C'est des clins d'œil. Il faut pas voir ça autrement que comme des clins d'œil. Il y a pas de volonté, disons, de règlement de compte ou quoi que ce soit. Après, je trouve intéressant et amusant finalement de situer les deux romans, j'en ai fait deux pour l'instant dans des contextes qui sont relativement réels, mais ça c'est un parti pris, je dirais, artistique, romanesque. Certains sont dans l'abstraction totale. Moi j'aime bien faire comme ça quelques petits clins d'œil. Peut-être la RSR apparaît aussi sous une forme ou sous une autre dans ce roman-là.
Sous le nom de la RTS, donc ça va bien.
C'est Swisscast TV, donc en l'occurrence la radio privée, mais il y a effectivement quelques liens avec des affaires et des choses qui ont pu se passer.
Donc c'est une radio privée, c'est un roman post-bilingue.
Peut-être un roman d'anticipation, je sais pas. Je le souhaite pas, en tout cas.
Mais ce qui montre le romancier, une espèce de clown qui se prend pour Dieu, parce que là, non seulement il a ressuscité Schumacher, mais il a transformé le Valaisan en conseiller communal neuchâtelois.
Mais on est entre clown et bouffon autour de cette table.
Au fond, on pourrait vous demander pourquoi vous avez dit d'entrée de cause qu'il ne faut pas chercher, c'est pas un roman à clé, il ne faut pas chercher des personnages derrière d'autres personnages.
Non.
Vous auriez pu, parce que c'est amusant et ça aurait fait le buzz, comme on dit.
Oui, aujourd'hui. Mais bon, c'est d'abord un buzz un petit peu facile. Et puis moi, ça m'amuse pas. Ces romans, effectivement, où le but du roman consiste à chercher qui est qui. Moi, encore une fois, j'ai c'est un peu une technique du collage. J'ai pris certaines personnes que j'ai mis dans la peau de l'autre, le physique de certains avec le caractère de l'autre. Je trouve ça, peut-être plus amusant. Il y a quelques clins d'œil, je veux pas. Voilà,
c'est un scientifique nazi, en fait, vous faites des expérimentations.
mais chez le détail.
Par rapport à la presse ou le débat tout à l'heure, je m'excuse. Je vous ai
Allez-y, Gabriel Bader.
À un certain moment, il écrit, donc dans ce roman, la presse écrite a un côté plus solennel. Il faut absolument être en interview
le papier,
dimanche, le matin, papier. Le papier. Et vous êtes là aujourd'hui, ça n'est pas dramatique. Vous ne serez pas mis dans le matin dimanche.
Lisez Gauche Hebdo, lisez Gauche Hebdo. Non, c'est vrai qu'on est. Moi, je suis très attaché à un journal, un petit journal Gauche Hebdo. Alors là, c'est vraiment de la cuisine presque artisanale.
Là, c'est là où vous travaillez.
Je travaille entre autres là. Et puis, il y a un attachement effectivement à cette presse papier. Mais voilà, qu'il ne faut pas non plus fétichiser. Moi, je suis comme Thomas Wiesel. Je vide mon cash pour relire les articles gratuits. Et puis, voilà, je crois qu'il faut simplement vivre un petit peu avec son temps aussi.
Michel Odetta, vous qui lisez beaucoup d'auteurs d'ici, le polar maintenant c'est devenu un peu c'est à la mode hein, chez les écrivains romans.
C'est à la mode. C'est une motif qui remonte loin. Je pense c'est Friedrich Nuremberg qui était le premier à écrire des polars, à trouver qu'il y avait une dignité au genre polar, à écrire des polars très différents, philosophiques en l'occurrence. Et depuis lors, le polar s'est émancipé hein, de ses vieilles attaches.
Mais celui-là, il est un peu politique. Alors,
c'est du polar politique, oui.
Ouais. Alors, il vous convainc ?
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait, il y avait des vraies qualités. Il y a une fluidité du récit, c'est une bonne histoire. Je trouvais un petit peu... un peu caricaturaux certains personnages.
Surtout les journalistes. Les journalistes détestent être caricaturés. Vous savez, je les connais bien.
Ouais, je pense, effectivement. Effectivement. Bah, oui, c'est ce milieu qui est un peu fantasmé, hein, faut être clair. Moi, je ne suis pas du Serail, je ne suis pas journaliste. Disons, c'est un mélange de ce que j'ai
C'est un peu fantasmé.
C'est un peu fantasmé, mais je crois que ce n'est pas grave. Je crois qu'on a le droit d'être un petit peu dans la caricature aussi.
Vous pensez vraiment que présenter le téléjournal sur une chaîne de télé, ça donne des tickets d'entrée dans les partous du canton?
Non, mais là, il y a un plaisir un peu de la caricature. Il faut pas se prendre trop au sérieux non plus. Et je crois que c'est pas un roman qui se prend trop au sérieux, j'espère pas en tout cas.
Mais Michel, comment on fait pour avoir des tickets d'entrée dans les partout?
C'est
pour un pote.
C'est la question que je me suis posée.
C'est pas les journalistes.
C'est pas les bons parleurs en tout cas. C'est pas les bons parleurs.
Je crois qu'il y a des clichés comme ça du polar, il y a des clichés du milieu littéraire et politique avec lesquels on peut jouer sans se prendre trop au sérieux, mais on peut les mettre effectivement coke et partout. C'est un peu un cliché effectivement de ce milieu-là.
J'ai été très déçu effectivement.
mais l'enraciné au niveau local, en parlant de Genève, de Neuchâtel, il y a des Pitet, des Sandeaux, des Ramus, des Anjou. Est-ce que finalement, ça ne réduit pas le côté imaginaire? Ça l'inscrit trop dans une espèce de réalité.
Ah, vous n'aimez pas, vous, quand c'est trop local?
Parce que j'aime imaginer la ville. C'est ça que j'aime dans beaucoup de polars, c'est qu'on peut les placer, si on a l'envie, de les placer à Lausanne ou ailleurs. J'avais lu L'aveuglement, par exemple, à Lisbonne, et j'étais sûr que la ville, c'était Lisbonne, la ville qui est décrite. Alors, pas du tout. C'est une autre, c'est une ville fantastique.
D'accord. Alors, ça, c'est le reproche. Vous êtes trop explicite, au fond. Vous dites Lausanne, Genève, il y a des Sandeaux, il y a des... etc.
Oui, mais bon, il faut bien comprendre que la Suisse romande est un tout petit milieu. Tout le monde se connaît. Donc, moi, ça m'a aussi permis, disons, ce polar. Et je crois que les polars intéressants, c'est ceux qui permettent, à partir de la forme polar, de s'en éloigner un petit peu. Et si on peut faire cette critique de ce milieu, quand même, où tout le monde se connaît un petit peu, j'entends la Suisse romande, voilà, on peut travailler à Genève, on peut avoir de la famille en Valais, etc. Tout le monde se connaît, c'est un petit milieu. Et c'est la possibilité de critiquer un peu ce vase clos avec quand même les relations entre politique et médias, c'est quand même quelque chose qui existe. J'entends, regardez ce qui se passe sous la coupole, regardez ce qui se passe avec M. Darbeler. Enfin, je ne sais pas si elle était journaliste en l'occurrence, mais il semble que oui.
On ne sait pas
si c'était une femme.
C'est un peu le problème de votre roman, c'est que le PDC était déjà bien éprouvé et que vous en rajoutez une couche.
Mais l'actualité, alors là, l'actualité m'a bien servi, effectivement, puisque je l'ai écrit il y a plus d'une année, mais voilà, comme quoi là. La fiction rejoint la réalité ou vice-versa, je sais pas.
Moi, j'aime bien la critique de Gabriel qui veut être à Lisbonne, mais si on les avait pas appelés Sandeau et je sais pas, Rock, ou qu'on les avait appelés Nunes et Lopez, on aurait quand même été à Sion ou à Lausanne, donc ça change pas grand-chose finalement.
Mais le roman est ambivalent, à mon avis. Vous êtes local parce qu'il y a des allusions qui ne peuvent être comprises que par les gens d'ici, mais il y a des moments où le roman donne l'impression que vous adressez un lecteur français. Vous dites, voilà, le PDC est un parti chrétien-démocrate.
Oui, il y a un peu ce mélange-là.
Vous expliquez choses qui sont évidentes aux gens d'ici, en revanche.
Effectivement, peut-être. Voilà, c'est peut-être ma volonté d'être diffusé en France qui m'a obligé à faire ça.
Vous avez bien raison. Mais non, il y a d'autres choses que je recommande. C'est la description d'un congrès, on parle du PDC, d'un congrès PDC à Genève. Je la recommande, elle est très réaliste pour en avoir suivi quelques-uns. Je peux vous dire que ça ressemble assez à ça, comme il y a d'autres descriptions plutôt réussies. notamment.
Vous êtes allé à un congrès PDC, c'est ça?
Je me suis pas compromis là-dedans, non. Mais j'ai fait beaucoup de congrès d'extrême gauche, alors qu'ils sont peut-être encore plus fleuris que les congrès du PDC. Je sais pas, je me suis pas risqué à les décrire parce que c'est quelque chose d'un petit peu extraterrestre. Mais
bon. Ouais, alors, une autre description que j'ai trouvée un petit peu abusive, c'est celle de cette femme qui se fait enlever et violer, etc., etc. Pour le coup, ça correspond assez peu à la réalité des violences faites aux femmes. Mais je trouve qu'il y a un truc quand même dans ce bouquin qui, pour l'instant, bah oui, bien sûr, évidemment, je suis là. Oui, pour l'instant, qui me dérange un peu dans ce bouquin, c'est l'exploitation, on va dire, d'une violence qui est réelle et puis qui est un petit peu caricaturée aussi, un peu cliché. Mmh. D'ailleurs, je trouve que les clichés s'existent dans votre bouquin. Il y en a quelques-uns quand même. Ah, et donc voilà, je trouve que ça, par contre, c'est extrêmement violent. Et comme on n'en a pas du tout parlé depuis qu'on parle de ce bouquin, je trouve qu'il fallait
Mais qu'est-ce qu'il devrait faire? Il ne devrait pas en parler. Ça existe, malheureusement, ce qu'il raconte.
Disons que c'est une question aussi de position et de posture, et que en tant qu'homme, de parler d'une réalité qui est en l'occurrence extrêmement violente et
il
concrète.
Il devrait pas.
En tout cas, pour l'instant, je trouve que je vois pas le ce que ça va apporter au Schmilblick, et au contraire, j'ai un peu l'impression que
Je pense qu'il vous pose un problème. C'est que c'est pas un livre de gauche d'abord, c'est pas un livre militant, et puis effectivement, moi je pense qu'un livre qui déplaît effectivement aux féministes radicales, et en l'occurrence à Colleen de Senarclan, est plutôt un signe de qualité. Donc moi, ça me pose pas de problème qui vous déplaise plutôt.
Parce que vous trouvez que si vous la provoquez, c'est que vous avez réussi votre affaire.
Plutôt, oui, effectivement. Disons, je pense j'aime beaucoup Colleen de Saint-Martin, mais c'est vrai que certaines de ses positions, son filtre de lecture, disons, est très est connu. Et disons, je crois qu'elle est dans son rôle, effectivement. Mais
oui, parce qu'il faut dire que le premier chapitre, c'est la description assez longue, et ça revient d'ailleurs d'un enlèvement, dans l'enlèvement d'une femme et de sa torture puis de son viol.
Absolument. Alors peut-être ce qui
vous avez pris du plaisir à l'écrire.
Il y a un petit côté comme ça, on se demande, il y a un côté jubilatoire, on sent que vous êtes derrière ce personnage, on sent que vous êtes derrière pas mal de choses, puis on se demande quelle est votre position par rapport à vos positions très policières habituelles. C'est assez
L'écrivain effectivement doit se permettre effectivement de prendre du plaisir dans la description de certaines de ces scènes, et effectivement
c'est un plaisir stylistique,
purement cérébral, si
l'écrivain ne bande pas, le lecteur n'aura pas d'érection, ça c'est clair, évident. Donc il faut prendre un vrai plaisir physique, évidemment.
Là, il vous provoque, Colleen. Vous avez compris qu'il vous provoque.
C'est moi qui provoque.
Mais je crois que, effectivement, depuis Freud, on sait que le sadisme est une part de la psyché humaine. Je crois qu'il faut, il faut l'accepter. C'est peut-être mal. Peut-être qu'il faut la redresser. Peut-être que l'homme est un sadique et un pervers. Moi, je le pense pas. Peut-être que vous le pensez.
Millennium le fait, et dans Millennium, ça me pose pas de problème. Donc alors, manifestement, il y a un
talent encore.
D'accord. Ben alors, écoutez.
En tout cas, je veux pas stigmatiser, mais les livres autour de la table, ils sont tous un peu écorné au début.
Oui, mais au début, oui, mais parce
que... La scène de viol vous a passionné, puis après vous avez lâché. Je peux te donner raison, M. Sansonon, c'est ça qui vous intéresse, visiblement.
Alors, les gens iront se rendre compte eux-mêmes en lisant votre livre, Julien Sansonon, mais on va parler maintenant un peu de votre activité politique. Vous êtes de nouveau député au Grand Conseil. Vous êtes d'extrême gauche. Enfin, c'est comme ça qu'on appelle le POP. Enfin, je sais pas si c'est juste le terme.
Oui, non. Moi, je parle plutôt de la gauche combative. Je crois que l'extrême gauche, effectivement, c'est une traduction plutôt trotskiste. Enfin, on va pas entrer forcément dans les détails.
Non.
Je me considère pas personnellement comme un extrémiste, ni les idées qu'on défend comme des idées extrêmes. Mais après, on peut.
Non, puis surtout, vous travaillez dans le Valais central, quoi.
Vous êtes ça vous dit. En plus, je travaille en Valais, donc ça vous dire si j'étais vraiment un extrémiste.
Mais alors, vous revenez après avoir quitté en claquant la porte le POP en 2012.
En claquant la porte, je sais pas. Non.
Vous avez eu des mots quand même assez raides, en disant que vous aviez assez des querelles, que...
Bah écoutez, à l'extrême gauche, vous n'avez pas ras-le-bol des bisbilles, je sais pas ce qu'il vous faut, effectivement, non, c'est un petit peu compliqué. Après, je crois pas avoir tapé particulièrement dans la fourmilière, ni sur personne, mais effectivement, j'étais un petit peu, après ces élections de 2012...
Fourmilière pour le POP, c'est un peu excessif. Hein.
Bah, les fourmis rouges, les petites fourmis rouges...
Non, il parlait du nombre, là, mais... Oui, il parlait du nombre.
D'accord. Oui, effectivement, c'était des petites...
Mais à votre avis, pourquoi aujourd'hui ce courant que vous représentez, pourquoi est-ce qu'il est pareillement inaudible?
Parce qu'on manque d'humour, peut-être, je sais pas.
Peut-être que vous croyez que c'est ça.
Non, mais à part ça, je le dis comme une boutade, mais c'est vrai. Je pense que c'est des milieux qui sont pas forcément toujours très très drôles.
Oui, il y a deux milieux qui sont pas drôles. C'est l'extrême gauche romande et puis le centre social protestant.
Michel Audetta, vous avez une hypothèse là-dessus? Pourquoi l'extrême gauche, qui a été longtemps quand même représentée en Suisse romande, elle est même montée jusqu'à des hauteurs dans certains cantons assez exceptionnels? Pourquoi, à votre avis, l'extrême gauche aujourd'hui?
C'est le problème de la gauche en général. Non, je ne veux pas vous assommer avec des explications globales, mais je pense qu'il s'est quand même passé deux, trois choses depuis 1989.
D'accord.
Il y a Colloque, lui, encore un maire d'extrême gauche.
Oui, oui, oui.
Non, mais voilà, ce qui me frappe dans ce monde POP, comme ça, voilà, ça produit, au fond, des personnalités morales. On les aime pour leur statut moral. C'est le cas du maire du Loc, c'était le cas de Marianne Huguenin.
Qui est venue ici, c'était le cas de...
Voilà, on les aime pour des raisons extra-politiques, en fait.
Ah d'accord.
Je pense que Zizianis aussi, son succès a quand même été justement de casser un petit peu cette posture très austère, très donneuse de leçons de l'extrême gauche. Quelqu'un qui aimait bien bouffer, quelqu'un qui aimait les femmes, etc. Ça lui a d'ailleurs été beaucoup reproché au sein de ce milieu-là, hein, comme s'il fallait effectivement être presque avoir une morale pratiquement religieuse. Il y a quelque chose du religieux dans l'extrême gauche, effectivement. Et moi, je suis plutôt pour une gauche combative, disons, qui sait se moquer parfois un petit peu d'elle-même. Et ce livre, et c'est peut-être pour ça que les militants ne l'apprécient pas forcément, parce qu'ils y cherchent effectivement des côté militant qu'il n'y a pas. Moi, je me moque un petit peu du monde, de moi-même, du milieu, et ça ne s'appelait pas forcément. Alors, je ne sais pas, pourquoi pas.
Donc, il vous manque de l'humour, mais peut-être qu'il vous manque aussi un message.
Je crois que le message, il est là, mais après, voilà, les explications, on est dans un contexte quand même très compliqué d'insécurité à tous les niveaux. Hein. Je crois que les gens ont peur, et on voit bien quand les gens ont peur, effectivement, on a plutôt tendance à défendre les acquis qu'à essayer de les prolonger, disons, de les agrandir.
Donc, vous êtes d'accord qu'il y a un paradoxe, quoi, que le parti des damnés de la Terre n'arrive pas à se faire entendre des damnés de la Terre, il y a quand même quelque chose là.
Oui.
Au moment où les damnés de la Terre souffrent le plus, c'est quand même un comble.
Je suis d'accord avec vous, il y a un paradoxe effectivement. Peut-être que la manière de le faire est un petit peu. Il faudrait peut-être réinventer aussi la forme, je sais pas. Cette forme austère apparemment ne passe pas, effectivement.
Et peut-être avoir des idées un peu moins courtes que ma mini-jupe.
Bon, j'avais pas remarqué.
C'est pas joli d'ailleurs.
Vous avez une brève, Vizal?
Oui, j'ai une brève, on parlait un petit peu de politique. François Fillon a dévoilé son programme et dans le programme, on découvre qu'il décide d'abolir la taxe à 75% sur les hauts revenus qui n'existe plus depuis 2015. C'est ça le problème quand tu écris ton programme dans les années 80, c'est qu'il y a déjà des choses qui ont changé. Il veut aussi abolir la peine de mort et donner le droit de vote aux femmes. Visiblement, il n'y a pas que dans ses sourcils qu'il n'a pas fait de l'ordre depuis longtemps.
Alors Julien Sansonos, maintenant que vous êtes bien installé avec nous, vous allez participer à notre troisième dispute autour de ce vote de mardi au Grand Conseil vaudois, qui fait paraît-il très serré.
Oui.
N'empêche, en principe, au début de l'an prochain, que dans le canton de Vaud, justement, la mendicité sera totalement interdite. Chaque mendiant sera passible d'une amende de 50 à 100 francs, de 500 à 2000. Pour celui ou celle qui aura envoyé un enfant faire la manche, Genève a déjà interdit la mendicité, le Valais aussi, tout comme les villes de Fribourg, Neuchâtel et Zurich. Alors, on va laisser la question de savoir si c'est efficace, pas efficace. On va essayer de remonter un tout petit peu avant cette idée qui paraît s'imposer. Qu'est-ce qui nous prend? Pourquoi la mendicité nous gêne-t-elle tellement, à votre avis, Michel Odetta?
Je pense qu'on n'arrive plus à lui donner un sens. Alors qu'historiquement, elle a eu un sens. Gabriel parlait au début de l'émission de l'économie du salut. Mais je pense qu'il y avait vraiment une économie au sens propre du salut. C'est-à-dire que le pauvre, l'indigent, le mendiant, voilà, il payait par sa souffrance son salut dans l'autre monde. Et puis le riche qui... Il payait son salut par l'aumône aux mendiants. Et tout ça fonctionnait bien dans le cadre d'une économie. À partir du moment où c'est sorti de ce cadre religieux et de cette économie-là, on n'arrive plus à prêter un sens. C'est pas vrai pour tout le monde. Hein. L'islam, par exemple, considère que il y a une importance de la mendicité dans l'islam.
Ou dans l'hindouisme, par exemple.
La zakat, qui est l'aumône, l'aumône légale, comme on dit, c'est le troisième pilier de l'islam, par exemple. Mmh. Mais voilà, nous, on est sorti de ça et on n'arrive plus à.
Mais qu'est-ce qui nous gêne? C'est le spectacle. De l'aumône, c'est de la mendicité qui nous gêne tant.
Je pense qu'il y a de ça. C'est vraiment la pensée magique. Vous savez, les enfants, ils n'ont pas la permanence de l'objet. C'est pour ça qu'ils aiment tellement jouer à cache-cache ou faire coucou. C'est-à-dire, lorsqu'ils ferment les yeux, ils pensent que les parents ont disparu. Puis il est tout surpris en ouvrant les yeux de le voir. En fait, c'est circuler, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire qu'on veut faire disparaître de l'espace public ce qui nous gêne en pensant que si on ne le voit plus, il n'existe plus. Et alors on est d'accord, et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'on est d'accord de soutenir des mendiants qu'on ne voit pas, et par contre,
ça c'est le grand paradoxe.
Et s'ils sont suisses, on les accepte aussi tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer, il y a quand même un arrière-fond assez raciste et xénophobe derrière cette loi. Et puis je crois que les arguments qui ont été donnés répondent tout à fait à votre question. Les touristes, on ne veut pas qu'à Lausanne, ils voient des mendiants. C'est ce qui a été dit par certains partis de droite, par l'UDC. Donc il y a vraiment c'est comme avant la Coupe du Monde, c'est comme avant tous ces tous ces événements où il y a des écrans géants où on attire les touristes à Lausanne, il faut cacher un petit peu, voilà, cacher un petit
peu. Oui, mais il faut intégrer le mendiant, il faut intégrer la disparition des mendiants dans l'espace public avec les autres volontés de policer l'espace public.
Absolument.
C'est l'interdiction de l'ivresse sur l'espace public, c'est l'interdiction du sexe sur l'espace public, du cri.
Encore heureux, non.
Et voilà. Non, mais ce qui est génial à Nogent, par exemple, non seulement ils ont interdit la mendicité, mais ils ont aussi interdit de fouiller les poubelles. Alors que la mendicité, c'est un vrai travail. Je mendie, j'ai un job, je suis mendiant.
Colline de Saint-Arclair.
Il y a cet aspect très ostentatoire d'une certaine mendicité actuellement, hein, avec l'arrivée des personnes roms qui posent problème manifestement à, effectivement, qu'il y a un biais raciste qui est énorme, hein, derrière ces prises de position, parce que la place de la Riponne, voilà, elle est là depuis longtemps.
Oui,
voilà, oui, à Lausanne. Et à Genève, on en a aussi des zones comme ça où il y a pas mal de mendicité, mais d'une autre nature, hein, qui concerne plutôt des personnes toxicomanes, etc. On parle pas de ça, en fait, dans cette loi. Donc là, on vise vraiment les personnes issues de la migration rome. Et c'est quand même assez hallucinant de se dire qu'on va prendre le fric qu'il y a dans la poche des personnes les plus précarisées. C'est un peu indéfendable, en fait.
Bon, on s'inquiète aussi des jockeys de la place de la Riponne à Lausanne, par exemple. Ces jours-ci, c'est le cas. Hein. Ça pose exactement les mêmes problèmes d'hygiène, de salubrité.
Oui, mais eux ne m'en disent pas. Ils demandent un subside pour les transports.
On veut purifier l'espace public, en tout cas, de la même manière.
Voilà, c'est-à-dire on veut annuler la vision qu'on pourrait avoir d'une pauvreté ostentatoire.
Je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a un problème. C'est juste la solution est absolument ridicule. Moi, je me réjouis de croiser un mendiant, de lui demander pourquoi il mendie, puis qu'il me dise que c'est pour payer son amende pour mendicité. Enfin, ça n'a aucun sens. Et des distractions dans l'espace. On ne va pas interdire toutes les choses qui nous dérangent dans l'espace public. Et c'est vrai que pour moi, le problème, c'est les réseaux. Les réseaux de mendicité, ça, c'est un problème.
Mais alors, est-ce que c'est pas un fantasme, ça? Alors, on parle beaucoup des réseaux.
Il semblerait que c'est un fantasme. Il y a les associations qui s'occupent des personnes roms, largement le fantasme.
Ouais. Oui, absolument.
Mais les réseaux seraient très mal organisés parce que c'est pas des millions qui sont gagnés chaque
jour. Ah bah non,
jour.
Justement.
Il faut aussi se rendre compte que c'est une réelle précarité.
Avec ce que vous donnez, avec ce que vous avez dit tout à l'heure.
Mais
c'est
non, entre 1 et 2 balles, c'est pas mal. Si tous les Vaudois donnaient entre 1 et 2 balles, les mendiants seraient plus là.
Mais Julien Sansonnet, c'est qu'à votre avis, il n'y a pas quelque chose d'autrement paradoxal, c'est qu'au fond, la culture occidentale, eh bien, elle valorise la pauvreté. Elle valorise, au fond, ses comportements. C'est en Europe qu'on a inventé les ordres mendiants.
Absolument. Mais elle valorisait pas tellement la pauvreté, mais elle valorisait le fait de donner pour se racheter. Et c'est là que la droite libérale a joué très bizarre sur cette affaire, parce que la question de l'aumône, effectivement, quelque chose qui existe depuis toujours, et le mendiant avait un rôle dans la société pour le fait de donner. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement disparu. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est surtout la question de l'efficacité de cette mesure. Les mêmes qui disent, mais il y a trop de toxicomanes à la Riponne, on veut les chasser, etc. Les mêmes vont utiliser les policiers qui sont déjà sans doute pas assez nombreux en ville de Lausanne pour traiter ces questions-là, vont utiliser ces policiers-là pour faire l'administratif.
C'est
ridicule.
Non,
c'est ridicule.
Revenons pas.
Mais pour utiliser des journalistes. Maintenant, il y a des journalistes qui cherchent.
Revenons simplement au principe. Dernière chose, les Suisses sont généreux quand ils donnent, hein, ils sont très généreux.
Oui, mais attention, c'est médiatisé, c'est ça qui est intéressant. Dans l'économie du salut du Moyen-Âge, au départ, l'aumône, elle est directe. Puis ensuite, elle est médiatisée, c'est-à-dire qu'elle passe par l'Église qui organise les ordres mendiants et qui organise l'aumône. Ensuite, elle est remplacée par l'État et aujourd'hui, elle est remplacée par les masses médias. Si vous avez le meilleur exemple, c'est le Téléthon. Le Téléthon fonctionne parce qu'il est médiatisé par eux. Et qu'est-ce qu'on montre au Téléthon? On montre des myopathes. Il faut qu'ils soient présents dans l'espace. Puis ensuite, c'est médiatisé par les...
Tandis que là. Il y a une zone de légitimité.
Oui, c'est direct. En fait, c'est direct. Vous êtes face aux mendiants qui représentent la misère et qui vous interrogent, vous. Et c'est
le dernier mot, Michel Odetta.
Enfin, c'est le paradoxe chrétien, c'est qu'on aime le lointain comme soi-même et pas forcément le proche, en l'occurrence. Avec
le prochain,
voilà.
Les prières chrétiennes, oui. Et puis, on fait toujours...
Et pourquoi? Je pense parce que celui qui est cette pauvreté lointaine, elle est réduite à son dénuement, quoi, à sa pure misère. Et quand les gens débarquent, on voit qu'ils ne sont pas que leur dénuement, ils sont toujours autre chose. D'abord, ils ont une épaisseur physique, ils sont contrariants,
Et puis, ce qu'il y a de frappant, c'est qu'au fond,
c'est plus l'abstraction.
On fait encore aujourd'hui aux pauvres, aux mendiants, en particulier Rome, le procès de savoir s'ils sont vraiment pauvres ou pas pauvres. En plus qu'à ça, mais c'est comme au Moyen Âge.
Les gens aiment dans la rue à demander de l'argent. Quand t'es riche, t'as envie de faire ça.
Mais ce qui est insupportable, moi, je crois que c'est ça, c'est que en fait, le mendiant, le miséreux, il rappelle que toi, tu l'es pas. Et puis, c'est ça qui est insupportable. C'est insupportable, c'est dire putain, je pourrais finir comme lui, ou bien je suis pas comme lui, ou bien l'injustice du système libéral est sous mes yeux. C'est ça qui est intolérable.
Mais vous pouvez dormir sur du papier. Et du journal.
Oui,
et ça c'est bon. Ça vous allez aimer.
C'est les derniers. Vous avez encore une brève, Wiesel? Non, vous en avez plus.
Bah non, j'en ai trois. On va faire bosser.
Non, c'est vrai.
Ça va aller.
Et on passe au père de la semaine. Donc la rubrique s'appelle désormais les perles de la semaine. Vous allez me dire ce que vous en pensez aussi, Julien Sansonnance. L'esprit reste donc toujours le même que jadis. Les perles sont les dérapages, des coqs à l'âne, des comparaisons boiteuses. Première perle, jeudi 22 septembre, sur la première, qui nous a été signalée par un auditeur. Il s'appelle Monsieur Nicolas Hurec. Le sujet est grave. Muriel Pott, enseignante à l'école de santé du canton de Vaud, répond à Simon Mathédoré sur un sujet dont nous avons parlé la semaine dernière. Les médecins devraient informer leurs patients sur le suicide assisté lorsque ces derniers sont irrémédiablement malades, et elle raconte une drôle d'histoire. Écoutez.
La Cour européenne des droits de l'homme qui a été sollicitée par rapport à une dame qui voulait que son médecin lui prescrive du pentobarbital, et la Cour européenne a donné un préavis en disant à la Suisse, d'un point de vue légal, vous devez être plus précis. Le problème, c'est qu'entre deux, la dame est morte et n'a pas averti la Cour européenne des droits de l'homme.
Donc, après votre mort, n'oubliez pas de prévenir tout le monde. Deuxième perle, et c'est une double perle, c'est un sujet dont nous avons parlé, donc cette double perle, une noire, une blanche, pour Pierre Rucci, rédacteur en chef de la Tribune de Genève, qui vient de vivre une très difficile semaine. Invité de forum mardi, il a une explication assez originale sur la crise de la presse.
Nous sommes dans une rédaction où tout le monde travaille intensivement. Il n'y a plus, comme il y a 20-30 ans, il y avait peut-être quelques personnes dans les placards, on se demandait ce qu'ils faisaient là. Aujourd'hui, ça n'existe pas.
Et moi qui pensais qu'il n'y avait qu'à la RTS qu'il y avait des placards. Hein ? Faut dire que bientôt, à Termédia, il n'y aura même plus de quoi se payer des placards, si je comprends bien.
Ah mais je suis étonné que vous jetiez le pavé dans la mare des placards de la RTS, mais c'est très bien d'en parler. Abordons le sujet.
Mais Pierre Rucci, alors c'est même Pierre Rucci va se reprendre, et ça c'est la perle blanche, donc avant c'était la perle noire. Écoutez comment il parle de son patron qui s'appelle Christophe Tonini, Thomas Wiesel en parlait tout à l'heure, 6 millions de salaires.
Un bon type.
6 millions de salaires contre les 4 millions d'économies exigées des deux titres romans. Alors écoutez Pierre Rucci.
De véritables éditeurs de journaux, ce ne sont pas des industriels qui ont des journaux comme danseuses, même si ils ont réussi avec bonheur, je dirais, leur transition vers le digital qui était extrêmement juteux et qui a permis notamment à M. Tonini de s'offrir un salaire, soyons clairs, assez indécent, de 6 millions par, par année.
Ah ben ça sert à ça, les journalistes, à dire la vérité, hein. Julien Sansonnance, c'est pas mal, c'est culotté de le dire.
Ouais, c'est cool de critiquer son patron comme ça. Moi, je respecte ce monsieur Rucci.
Oui, mais moi donc. même si 6 millions, c'est beaucoup, mais le mieux payé des dirigeants de Suisse en gagne 16.
Sur les 10 mieux payés, il y en a 4 des pharma.
Voilà.
Et ça n'a rien à voir avec nos primes maladies qui viennent d'augmenter. C'est totalement pas du tout lié.
Alors, la dernière perle, elle est pêchée. Elle a été pêchée dans Vertigo, l'émission Vertigo de la première. Mercredi, Christine Gonzalez interrompt l'émission par une inforoute et d'une voix ample et chauve. Et chaude.
Elle a une perruque.
Voici ce qu'elle dit.
Dans l'agglomération fribourgeoise, le trafic est toujours perturbé entre Fribourg et Villars-sur-Glâne suite à un accident survenu sur la route de Montcor. Sur l'application RTS Trafic, vous trouverez d'autres informations concernant le trafic routier. Je m'en lasse pas quand je dis la rue de Montcor, tout le monde me regarde.
Ah oui, non, c'est troublant.
Ça existe. Et encore une fois, j'insiste, il existe aussi la forêt de Montcor. Où j'ai...
Et vous connaissez la ville de Montcuq aussi ou pas ?
Non, ça n'a rien à voir.
Montcor, Montcuq. Mais qu'attendent donc ces deux villages pour jumeler, soyons fous, pour fusionner ? Même si Montcor, je le précise, n'est pas un village, c'est un lieu dit. C'est même une forêt, un bois. Alors la bijouterie des beaux-parleurs est ouverte à tout le monde. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer des suggestions de perles dont nous ferons un plaisir de nous amuser. Laquelle vous amuse le plus, Julien Sansonnance?
Ah, mon corps, j'ai bien aimé. Alors, c'est...
Ouais.
Oh, ouais, c'est... ouais. Et puis, c'est vrai qu'il y a
c'est narcissique comme phrase.
C'est vrai que le décalage des fois entre les infos routes avec la voix très suave et puis ce qui se passe au niveau de l'émission est des fois assez drôle.
Très bien. Mais merci en tout cas, Julien Sansonnance, d'être passé nous voir. Je rappelle le titre de votre livre, Un polar, j'ai dit tout à l'heure, mais ne le prenez pas en mauvaise part. Un petit peu long, peut-être, 430 pages, c'était peut-être beaucoup. Vous êtes d'accord, finalement, vous dites...
Non, mais je ne crois pas, on parlait des journaux, effectivement,
quand on a
ça se raccourcir et que c'est dommage. Moi, je crois que c'est un parti pris, les gens peuvent lire quelque chose d'un peu plus long.
Il faut que le lecteur en ait pour son argent, il faut qu'il s'en...
Moi, je me suis arrêté Belle du Seigneur pour lire ça, donc 430 pages, facile, quoi.
Oui, non, c'est vrai, après, à côté de Proust, c'est franchement rien du tout.
Et vous n'avez pas rappelé le titre?
Le titre, c'est « Les ordres de grandeur » aux éditions de l'Air. Et merci à Rodolphe Beauchaud, le réalisateur de cette émission, à Monique Cortési, son assistante. La semaine prochaine, enfin, Colline de Sonarclan. Nous invitons une femme.
Ah, je suis contente, oui, Michel, bravo.
Il n'y a pas vous, mais
vous voulez
une
un cookie
femme. Oui, j'aimerais bien, je trouve. Nicole Schwab, c'est une ancienne du WEF et maintenant, elle s'occupe, figurez-vous, d'égalité salariale. Il n'y a pas que vous, hein.
Eh ben
merci à nos chroniqueurs, Gabriel Binder, Michel Odetta. La semaine va être dure dans la presse, Michel Odetta, vous croyez que...
Tous au comptoir.
Pas que la semaine, l'avenir.
L'avenir, hein, c'est ça. Vous avez la trouille, vous?
Vous voulez dire pour ma place, je ne sais pas si mes employeurs ont écouté l'émission ou pas. Mais...
D'accord.
J'espère pour vous que non.
Vous croyez? Non. Merci à Thomas Wiesel. Vous, on vous retrouve bientôt chez Barthes.
Mardi.
Ça va? Vous commencez à vous sentir à l'aise?
Non, je suis fatigué.
Vous êtes quand même mieux ici, hein, franchement.
Moi, je suis mieux ici. Ouais.
Ah ouais?
Mais personne ne nous écoute.
Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.